Mai 68, une vie, une œuvre, Herbert Marcuse, une philosophie. C'est une émission de Catherine Paoletti à suivre pendant 1h30. Herbert Marcuse, philosophie de l'espoir pour les sans-espoir. Lorsqu'en mai 68, la presse associa à la révolte qui enflammait la jeunesse le nom d'Herbert Marcuse, celui-ci était pour la plupart un inconnu. Et même si la réplique de Daniel Cohn-Bendit, Marcuse, qui est-ce, n'était qu'une provocation, elle signe l'étrangeté de la rencontre entre les contestataires et un universitaire septuagénaire, devenu à son corps défendant le philosophe de cette période, et de contestataires qui ne l'avaient eux-mêmes jamais lu. Ces deux uniques livres, traduits en français, Marxisme soviétique, Eros et civilisation, n'étaient objet d'intérêt que dans des cercles très restreints, sans aucune commune proportion avec l'audience de ces textes ultérieurs, dont, essentiellement, L'homme unidimensionnel, publié après 68, où l'on allait bientôt chercher avec avidité l'explication de cette violence soudaine. Lorsque Rudi Dutschke, leader du SDS allemand, faillit être assassiné, un académicien français affirmait que le chef de l'extrême gauche allemande se réclamait d'un obscur philosophe germano-américain. Alors que les différents groupes révolutionnaires se réclament de Trotsky, Lénine, Mao ou Che Guevara, Marcuse développe une critique radicale de toutes les formes d'oppression quotidienne, affirme la nécessité d'abandonner le socialisme scientifique pour un socialisme utopique, d'unir l'art, l'imaginaire, nos désirs et nos rêves, et de croire dans les pouvoirs subversifs des marginaux, des sans-droit, des chômeurs, des étudiants ou de tous ceux qui refusent de pactiser avec un monde qui confond bien-être et oppression, liberté et barbarie.
On a cessé d'être, pour exister.
Une vie, une œuvre, Herbert Marcuse, une philosophie de l'espoir pour les sans-espoir. Une émission de Catherine Paoletti. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Herbert Marcuse, Katharina Kenbulo?
Je dois dire que je l'ai d'abord rencontré comme tout un chacun par la lecture, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle très important en Allemagne, notamment pendant les années 66, 67, 68 et même au-delà, beaucoup plus qu'en France.
Lui faisait partie des 3M, comme on
ouais,
dit,
c'est ça.
Marx, Marcuse, Mao.
C'est ça. Mais bon, je vivais en France, mais j'étais allemande, donc j'étais très sensible à ce qui se passait là-bas. Et bon, je commençais à lire, j'ai mis un peu la main sur ce qu'il écrivait, sur ce qu'il disait. Et il me plaisait parce qu'il avait un côté paternel, mais très ouvert. J'ai continué à suivre un peu son itinéraire. Vous savez qu'il vivait en Californie, qu'il était revenu donc exprès à cause des événements, que c'était un juif allemand qui avait émigré à temps, grâce à Dieu, et que c'était donc une personnalité qui me touchait particulièrement. Et je me souviens qu'un jour, j'en ai parlé à Sartre, avec lequel j'avais affaire périodiquement pour des raisons éditoriales, et aussi évidemment de militantisme. Et il me disait, comme ça, avec un air un peu étonné, « Ah tiens, oui, ça fait partie de ces gens que je n'ai jamais rencontrés. » Et pourtant, il m'aurait intéressé. Et je lui dis, « Mais écoutez, je vais essayer de voir, peut-être que je peux organiser quelque chose. » Et j'ai écrit à l'adresse de Californie, à Marcuse, en lui disant, « Voilà, je suis allemande, je vis en France et je voudrais bien un certain nombre de réponses à propos de ce qui s'est passé en Allemagne avant la guerre. »
Donc ça, c'était vos soucis personnels.
Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec mai 68, mais c'était beaucoup plus des questions, ce que le juif allemand de l'époque, qui avait émigré, vécu aux États-Unis, pouvait me dire sur le national-socialisme. J'avais mes propres théories. Je lui ai écrit une très longue lettre. Il m'a répondu, curieusement, par une très très longue lettre aussi. Et c'est comme ça que nos échanges épistolaires par courrier interposé ont commencé.
Non seulement vous avez un grand penseur, qui plus est, qui conjugue les forces de deux personnages particulièrement sulfureux, c'est-à-dire Hegel et Heidegger, donc tout ça est trop. Vous savez, je comprends très bien que ça puisse susciter les fureurs.
Quand l'intelligence et la moralité elles-mêmes deviennent des facteurs révolutionnaires, lorsqu'elles cessent d'être les servantes de la répression, on peut vivre fort heureux, apparemment, dans la stupidité et dans un monde où le génocide, la torture et la famine vont de soi, comme autant de modes de vie. Il y a un bonheur objectivement réactionnaire, immoral.
C'est politique, au sens noble du terme. C'est un philosophe de la politique, beaucoup plus qu'un sociologue ou un psychologue. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important.
Lorsqu'en mai 68, la presse associa à la révolte qui enflammait la jeunesse le nom d'Herbert Marcuse, celui-ci était pour la plupart un inconnu. Même si la réplique de Daniel Cohn-Bendit, Marcuse, qui est-ce, n'était qu'une provocation, elle signe l'étrangeté de cette rencontre entre un universitaire septuagénaire, devenu à son corps défendant philosophe de la contestation, et des contestataires qui ne l'avaient jamais lu. Ces deux livres uniques, alors traduits en français, « Le marxisme soviétique » et « Héros et civilisation », n'étaient objet d'intérêt que dans des cercles très restreints, sans aucune commune proportion avec l'audience de ces textes ultérieurs, dont « L'homme unidimensionnel » publié après 68, dans lesquels on allait bientôt chercher, avec avidité, l'explication de cette violence soudaine. Lorsque Rudi Dutschke, leader du SDS allemand, faillit être assassiné, un académicien français affirmait que le chef de l'extrême gauche allemande se réclamait d'un obscur philosophe germano-américain. Pourtant, de la philosophie concrète des années 30 à son dernier livre et testament philosophique « La dimension esthétique », se déploie un authentique parcours philosophique dont l'itinéraire reste l'un des plus surprenants de toute la pensée philosophique contemporaine.
Alors cette célébrité assez subite,
Gérard Rollet,
je ne suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment étonné, mais en tout cas elle a été subite, je crois qu'elle a beaucoup nui à sa réputation d'une certaine façon, et que Marcuse a été un peu galvaudé et associé à tout un courant de nouvelle gauche. Mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, et que si nous avons pu nous demander une dizaine d'années après sa mort, s'il fallait oublier Marcuse, c'était évidemment une question purement rhétorique, et il s'agissait bien plus de le redécouvrir, et le moment était venu de le redécouvrir à l'écart de cette mode un peu tapageuse que lui avait valu son engagement très réel et très sincère pendant les années 60. Il ne faut pas oublier que le petit ouvrage que l'on connaît sous le titre « La fin de l'utopie » et qui date de 1967, est en fait issu très directement de ces discussions. C'est un ouvrage qui relate les débats avec le mouvement étudiant berlinois. En gros, donc, cette célébrité de Marcuse, elle se situe entre la parution de l'homme unidimensionnel en 1964 et ce qu'on a l'habitude d'appeler les événements de 1968.
C'est quand même un trait de la personnalité de Marcuse, de s'être intéressé à tous les mouvements sociaux. D'ailleurs, bon, dès sa prime jeunesse, il entre dans les mouvements, il adhère au SPD, il fait partie des conseils de soldats. Bon, certes, il va en démissionner à la suite de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, mais quand même tout au long de son existence, il y avait quand même un lien intrinsèque qui est apparu, qui a surgi avec l'opportunité de mai 68, mais entre sa pensée et son intérêt, disons, pour l'actualité sociopolitique de son époque.
Oui, tout à fait. Bon, il ne fait strictement aucun doute que la vie de Marcuse et sa carrière philosophique qui s'étend quand même sur une cinquantaine d'années ont accompagné quelques grands moments de l'histoire du siècle. Il a été le premier à souligner dans une interview tardive, peu de temps avant sa mort, à quel point cet engagement avait été le moment de son éveil politique. Et je crois qu'effectivement l'éveil politique de Marcuse commence en 1917. Et à partir de ce moment-là, cet éveil ne se relâchera jamais, avec des aléas qui tiennent à une carrière qui n'a pas été une carrière d'universitaire sage et en ligne droite. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a fait d'abord une thèse de doctorat en 1922, qui a failli faire une habilitation sous la direction de Heidegger, qu'il n'a pas soutenu. Il a dû émigrer dans les années 30, en 1934.
L'exil, c'est quand même aussi très important événement.
Ça a été, comme pour tous les membres de l'Institut de Recherche Sociale de Francfort, ce qu'on a appelé après coup
l'école
de Francfort, ça a été un tournant incontestable. Il y a eu d'ailleurs à cette époque-là plusieurs tournants. Disons, il y a le tournant de l'émigration, l'installation aux États-Unis. Il y a un autre tournant qu'il ne faut jamais oublier, c'est le tournant de 41, qu'on trouve également chez Adorno et chez Horkheimer, qui est le tournant dont va naître, si vous voulez, pour Adorno et Horkheimer, la dialectique de la raison. Hein. Et on trouve quelque chose de comparable dans l'évolution de Marcuse. Après, il y a un épisode qui est tout à fait amusant, qui est peut-être moins connu en France. C'est la participation de Marcuse à l'OSS.
C'est-à-dire à l'Office de
Strategic Services.
Qui était chargé de la dénazification.
Qui était entre autres chargé de la dénazification, effectivement.
Et il va y rester 10 ans, c'est quand même pas
Marcuse
rien.
Et Marcuse va y rester une dizaine d'années, effectivement, avec une position de responsable, puisqu'il a été chef exécutif de la Central European Branch à partir d'avril 48. Il ne donnera sa démission qu'en 1951.
C'est curieux parce que je le croyais non seulement très radical qu'il était dans ses positions en mai 68, donc j'étais persuadée que par rapport à l'Allemagne, il devait avoir gros sur le cœur.
Katharina von Bülow.
Parce que moi, j'avais très gros sur le cœur. Et je lui ai mis un premier mot assez violent dans mes analyses de ce qui s'était passé en Allemagne, en disant notamment que je refusais totalement la thèse que la population n'en ait rien su, que la plupart des choses s'étaient passées comme ça, un peu à l'improviste, par une dynamique interne au parti, au système, et que je pensais que justement, on pouvait très bien savoir ce qui s'était passé, et je lui ai demandé, vous, jeune étudiant ou jeune homme en Allemagne, si vous êtes parti, c'est que vous saviez quelque chose. Et il m'a répondu comme quelqu'un qui veut calmer mon radicalisme. En allant plutôt dans le sens, non, la population ne savait pas, ils n'étaient pas plus antisémites que dans d'autres pays, il faut bien comprendre le contexte historique. Et puis il a fait une analyse très marxiste. Et ça m'avait beaucoup étonné, je lui ai réécrit en maintenant mes théories, en les radicalisant d'ailleurs. Je venais de lire les mémoires de Speer, d'Albert Speer. Et bon, il est resté le répondant paternaliste qui essaye de démontrer que c'est plus compliqué, que ce n'est pas...
Ça vous a déçu ?
Est-ce que ça m'a déçu ? Je crois que j'étais plus étonnée que déçue. Mais vu mon état d'esprit de l'époque, je crois qu'il était normal qu'un homme qui avait quand même 25 ans de plus que moi... et un autre vécu réagissent autrement que moi. Et au contraire, ça m'a plutôt rapproché parce que j'avais le sentiment que je pouvais lui poser des questions et qu'il me répondait sur les faits, toujours d'une manière très intéressante, même si son analyse était légèrement différente de la mienne. Hein.
Aussi intéressant quand même de souligner la position de Marcuse quant à la dénazification, parce qu'effectivement, ces expertises n'ont pas été suivies d'une certaine façon.
Non, elles n'ont pas été vraiment suivies des faits. Je crois que l'épisode le plus intéressant de cette période, de la carrière de Marcuse, c'est évidemment sa participation à l'entreprise américaine de dénazification, mais en même temps, la liquidation de ce qu'on pourrait appeler, en exagérant un tout petit peu, son passé heideggerien. 1948, donc, c'est une rupture politique définitive avec Heidegger, et d'une certaine façon, on peut dire, c'est aussi une rupture théorique. L'heideggerianisme ne va plus jouer un rôle important dans la pensée de Marcuse. Et il y a en particulier un texte qui est très important, un texte de 1948, ce sont des remarques sur Sartre, qui montre comment il prend ses distances à l'égard de toute forme d'existentialisme, alors que Marcuse avait tenté jusqu'alors de transformer l'existentialisme en philosophie concrète, comme il disait, en philosophie pratique, et d'une certaine façon de concilier Marx et Heidegger, et à partir de là de trouver une troisième voie, c'est-à-dire de dépasser ce qui lui paraissait être l'impasse du marxisme de l'époque, au moyen d'une nouvelle conception de l'historicité qu'il cherchait du côté de Heidegger.
Il y a un double malentendu. Je n'ai jamais dit que la philosophie changera le monde, mais j'ai dit que la philosophie a contribué au changement du monde. Certes, toute philosophie est en même temps une idéologie. Il y a toujours une différence entre théorie et idéologie. J'ai essayé de fonder mon analyse sur les faits et les tendances qu'on peut observer. J'espère que ma philosophie n'est pas seulement une idéologie, mais aussi une théorie d'un mouvement actuel. D'autre part, je n'ai jamais dit que la société libre serait une société sans administration. C'est absolument impossible, et aucun marxiste, aucun socialiste, aucun radical n'a jamais dit que la société libre peut se développer sans administration. La dernière question que vous avez posée est vraiment très sérieuse. Si je vous ai bien compris, vous demandez s'il y a une raison possible, s'il y a une justification imaginable pour exiger le sacrifice des libertés existantes et peut-être le sacrifice de la vie de beaucoup d'hommes dans l'intérêt d'une révolution qui peut mener à des conditions plus oppressives que celles qui existent. Je crois qu'il y a une double moralité dans l'histoire. Il y a la moralité du statu quo et la moralité de la révolution. On se demande rarement quel est le nombre de victimes sacrifiées pour maintenir le statu quo. dans les guerres nombreuses menées par et pour les systèmes établis, dans les pogroms, dans l'oppression des minorités, etc. Je crois que si l'on voulait comparer le nombre des victimes du statu quo et le nombre des victimes des révolutions, on verrait que les sacrifices les plus effrayants sont exigés par le maintien de l'ordre établi. Il y a vraiment une double morale. On devient moral par rapport à la révolution. On se pose des questions morales par rapport à la révolution, mais rarement par rapport au statu quo.
On a souvent oublié que l'homme unidimensionnel, Herbert Marcuse l'avait écrit comme un refus dans les années 50 des courants analytiques de l'épistémologie et de la sociologie fonctionnaliste qui étaient implantés dans les universités américaines. Donc on omet très souvent de voir à qui s'adresse Marcuse et Gilles Châtelet, cette question, ce problème vous concerne directement, puisque après les enjeux du mobile, vous venez d'écrire un pamphlet, enfin, qui concerne aussi ces questions, donc qui s'intitule « Vivre et penser comme des porcs » aux éditions Exil.
Il est de bon ton de mépriser Marcuse, de dire que c'est démodé. En fait, une relecture, si j'ose dire, un peu attentive, montre qu'il y a un certain nombre d'axes fondamentaux, je dis bien, non pas des contenus de pensée, mais des axes absolument nutritifs et très très stimulants. Il fait jouer ensemble deux géants de la philosophie, c'est Hegel et Heidegger. Il arrive à tirer une espèce d'énergie, si j'ose dire, révolutionnaire, tout au moins subversive, du fait que la société actuelle incarne cette espèce de oubli de l'aide dont parle Heidegger, mais il n'a pas le même rapport pessimiste à la technique qu'à Heidegger. Et là, c'est là, il reproche essentiellement à la philosophie analytique d'oublier que la positivité n'est pas une chose qui doit asservir, mais que le négatif est ce qui embrase, ce qui fait prendre feu. Donc il y a un jeu, en quelque sorte, sur le voile de l'être et l'incendie du négatif.
La puissance du négatif. Non.
Et il n'hésite pas à parler, il y a des paragraphes tout à fait étincelants sur la philosophie analytique, où il parle de sadomasochisme académique. Donc il a très bien vu que le système, et c'est jamais été aussi valable, le système d'autorépression de l'époque de Marcuse et qui s'est accentué maintenant fonctionne une articulation entre un certain type de rapport à l'empirie et à mon avis un rapport extrêmement dégradé à l'empirique et au positif et puis aux pratiques sociales. Il dit les Grecs en fait qu'avaient une espèce de rapport de jouissance contemplative. Là il a lu Devoe. Et actuellement, on en est à la manipulation et au contrôle. Donc il s'agit, là, c'est très heideggerien, d'inventer une nouvelle effectivité. Et que la société actuelle et la philosophie analytique réussissent à articuler complètement des opérations mentales et des opérations de pratique sociale. Une articulation essentielle entre un certain type de répressivité analytique, d'exigence, je dirais même d'ultimatum, de la clarté, enfin des pratiques sociales ou des pratiques politiques. Ça, c'est quand même l'idée fondamentale de Marcuse. Et là, il reprend toutes ces histoires de rencontres au coin de la rue, de John Doe, et il dit, effectivement, si le langage, c'est simplement ce langage ordinaire de qui parle constamment, c'est toujours le même exemple, la neige est blanche, enfin d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que tout ça n'a pas varié depuis 20 ans, et en sorte la grande sommation qui s'est passée au début disons, des années 80, où effectivement il y a eu une contre-attaque très vigoureuse, il faut le reconnaître, de la philosophie analytique, et surtout de sa partie la plus réactionnaire. Je ne dis pas du tout que la philosophie, il y a des choses tout à fait intéressantes et subversives dans la philosophie analytique. Mais ce qui a été utilisé, très souvent c'est une espèce de sommation de clarté, qui consiste à dire que, en fait, le langage naturel, la langue naturelle, dont précisément Hegel a voulu montrer toute la richesse en la tordant sur elle-même, eh bien non, là il s'agit d'avoir une espèce de rapport comportemental et instrumental au langage. Ce qu'on appelle la langue ordinaire. Donc il dit, évidemment, Marcuse dit, c'est une mystification totale, parce que c'est pas quand on a dit John rencontre Peter, en fait, ces exemples qui apparaissent dans une étincelante clarté prétendue, en fait, sont les plus mystificateurs et fondamentalement les plus répressifs qui soient. Ça, quand même, on doit ça à Marcuse. Et beaucoup d'interrogations françaises, chez Deleuze ou chez Guattari aussi, sont, enfin, plus ou moins dans cette, si j'ose dire, cette mouvance. C'est une expression un peu douteuse, l'expression de mouvance. Et Marcuse ne le dit pas, mais il voit très bien que ce rapport au langage ordinaire, qui se, en quelque sorte, qui se voudrait sincère et simple, quel est actuellement le discours répressif? C'est, par excellence, votre langage n'est pas à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas un démocrate, etc. Et finalement, il y a une espèce de phénomène où les gens s'auto-congèlent. Vous n'êtes pas à la portée du lecteur moyen, c'est quasiment toujours les mêmes discours. Il s'agit toujours de fantasmer, parce que c'est un pur fantasme, par définition, par une attitude moyenne qui serait là, et qui se présenterait dans toute l'évidence de sa clarté, et donc de sa légitimité, dans laquelle il s'agit de s'agenouiller. C'est ce qui, et donc, on voit, et alors tout cela, comme par hasard, s'articule avec une force des marchés. Les marchés, en fait, représentent cette opinion moyenne, et toute tentative de s'écarter, d'avoir des variations par rapport à ces marchés, représente une espèce de scandale métaphysique par rapport à la moyenne.
Donc c'est effectivement cette étonnante rationalité que pointe déjà Marcuse dans L'homme unidimensionnel, mais qu'il articule au fait que finalement, ce qui semble aller de soi est quand même fondé sur une irrationalité fondamentale.
Oui, d'ailleurs il parle d'une très belle expression, de jargon tracassier de la philosophie analytique, enfin prise dans ce sens-là, c'est-à-dire un rapport... qui n'est plus tout le rapport absolument sain et vif du vivinness de l'empirisme anglo-saxon dans ce qu'il a de meilleur, mais au contraire, et là je fais intervenir Hegel, où en quelque sorte chacun devient le valet de chambre de soi-même. Alors ce qui est extrêmement drôle, c'est que cette clarté installe une légitimité du combat de chacun de soi contre soi. Il faut quand même avouer que c'est un système extraordinairement fort, peut-être que beaucoup plus fort que l'avait prévu Marcuse. Les légitimations de la jungle par la clarté, par l'évidence et par l'homme de la rue. En quelque sorte, tout le système fonctionne, se légitime par sa propre envie, par ses propres défauts. C'est-à-dire que sa force, on est en situation en sorte d'onde de choc, où Adam Smith dit très bien, remarquablement, qu'effectivement, c'est pas pour notre plaisir que le boulanger fait son pain, mais en fait, ça se dégrade avec Jefferson par chacun, la démocratie c'est l'envie, et ensuite finalement on se demande comment des gens comme effectivement Saint-Augustin ou Rubens ou un grand artiste ou Einstein ou Heisenberg ou tout ce qui fait l'humanité a été possible, puisque chacun en fait ne semble que limité à la clarté et dans ses intérêts. Donc c'est toute la mystification, et alors qui prétend se reposer sur la science en tant que la science serait la détermination en dernière instance d'une clarté ultime, alors qu'en fait les expériences de pensée, comme les entendait Einstein, c'est exactement le contraire. Il ne s'agit jamais, évidemment, de s'appuyer sur une espèce d'évidence ultime, mais au contraire de se donner des dispositifs qui font éclater cette évidence ultime. L'invention du calcul différentiel, le calcul différentiel, c'est probablement ce qu'il y a de moins pragmatique et ce qu'il y a de moins, disons, évident ou clair. Enfin, au sens où l'entend la philosophie analytique, disons, dégradée. C'est ça qui est flagrant. Si une telle conception était possible, si effectivement les seules phrases possibles étaient « la glace au chocolat est au chocolat », eh bien, c'est bien ça, on n'aurait même pas inventé, il n'y aurait même pas eu de guerre du feu, parce qu'il n'y aurait pas eu de feu. Donc je retrouve le négatif par le biais du feu.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to
vérité apparaît d'abord comme négation. La définition positive de la liberté demeure un X, une variable ouverte.
Herbert Marcuse.
Cette liberté n'est pas un fait, ni un fait transcendantal, ni un fait historique. C'est plutôt la faculté et l'activité humaine de refuser l'univers donné de l'expérience comme cadre de toutes les transformations. La faculté de développer une rationalité et une sensibilité radicalement différentes de la rationalité et de la sensibilité régnante. C'est la faculté de comprendre les données de l'expérience de telle sorte qu'elles révèlent leur propre négativité, c'est-à-dire jusqu'à quel point elles sont les données de la domination. C'est la synthèse radicale qui se trouve à l'origine des grands mouvements progressistes de l'histoire, la Révolution française, la Révolution socialiste. Et cette synthèse radicalement critique de l'expérience a lieu à la lumière de la possibilité réelle d'un monde meilleur, à la lumière d'une réduction possible de la souffrance, de la cruauté, de l'injustice, de la stupidité.
Allez, vas-y. Droit devant. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, regarde partout, n'aie plus derrière. N'aie pas peur, ne t'arrête plus maintenant, vas-y, droit devant.
Peut-être bien comprendre le parcours philosophique de Marcuse, il faut aussi peut-être se pencher sur ses premiers écrits qui ont souvent été oubliés, à savoir ceux qui se situent entre 28 et 33, où on peut voir et peut-être mieux comprendre les influences décisives de sa formation.
J'attache pour ma part la plus grande importance à une relecture précise de ses premiers écrits de la période 28-30, c'est-à-dire les contributions à une phénoménologie du matérialisme historique, l'essai sur la philosophie concrète, parce que ces textes sont ceux, à mon avis, où se met en place une quête dont on va pouvoir suivre la persistance dans toute son œuvre. C'est la quête de ce que j'appelle la recherche de l'imagination historique, dont on comprend immédiatement l'importance considérable, puisque en filigrane du moins, on va la retrouver jusqu'à la dimension esthétique, qui est le tout dernier ouvrage de Marcuse, avec évidemment cette énorme déception que précisément dans ce dernier ouvrage, la théorie de l'imagination ou de l'imaginaire historique échoue, qu'elle retombe dans une ontologie pour laquelle l'art est une sorte de gardien de valeurs immémoriales de l'humanité, tandis que, d'autre part, la décision politique est abandonnée à la pratique, alors que l'imagination historique devait être la médiation entre l'utopie d'une humanité libérée et la pratique historique permettant de faire advenir cette utopie. L'ouvrage dans lequel cette conception de l'imaginaire historique prend la plus grande importance, c'est L'homme unidimensionnel. Et c'est peut-être l'ouvrage dans lequel on la chercherait le moins, parce que
C'est aussi le creuset de toutes ces influences, parce que
l'homme unidimensionnel,
Husserl, Dilthey, Heidegger, donc on a un peu...
Oui, l'homme unidimensionnel, c'est ce que je voulais dire, c'est une espèce de melting pot, c'est l'ouvrage qui a rendu Marcus célèbre en 1964, qui est un peu un ouvrage grand public, c'est pas un ouvrage très profond philosophiquement, mais il contient des thèses extrêmement profondes, et il faut le relire à la lumière de cette quête, alors tout à fait philosophique, académique, classique, universitaire, hein. Qui a commencé dans les années 28-30. Et alors on y trouve, à ce moment-là, quelque chose qu'il faut tout à fait prendre au sérieux, c'est la dialectique de l'imagination. Alors quelle est-elle, cette dialectique? Eh bien, elle part d'une idée qui est connue, c'est que nous vivons dans un monde unidimensionnel. Cette notion d'unidimensionnalité étant au fond assez proche de ce qu'Adorno appelle de son côté le totaler Verblendungszusammenhang, le contexte d'aveuglement total, de ce que Horkheimer a appelé le voile technologique, c'est-à-dire la technologie devient en même temps une idéologie qui s'empare de toute la société. Et on peut résumer cette notion d'unidimensionnalité par la formule fameuse « le tout semble être l'expression de la raison ». Le tout que représente la société semble être l'expression de la raison. La raison semble s'être accomplie, et j'ai tendance pour ma part à mettre l'accent sur le verbe « sembler », car c'est à partir de ce terme que se met en mouvement la dialectique de l'imagination. Alors Marcus veut dire par là que nous vivons dans un contexte dans lequel le voile technologique n'est absolument pas une idéologie que l'on pourrait dissiper, comme pourraient se l'imaginer des conceptions naïves de la critique de l'idéologie. Ça n'est pas un voile qu'on pourrait écarter, ça n'est pas une illusion, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est à la fois la réalité et l'idéologie. À partir du moment où on ne peut plus distinguer entre illusion et réalité, il faut trouver des moyens pour dissiper l'illusion et en même temps pour combattre la réalité, car c'est évidemment en dissipant l'illusion qu'on pourra combattre la réalité, mais on ne peut plus s'appuyer sur ce que Marcus appelait auparavant le pouvoir du négatif et qu'il situait dans la pensée critique, c'est-à-dire dans cette pensée utopique qui était capable d'opposer l'idée d'une humanité émancipée à une mauvaise réalité. Désormais, la pensée est en quelque sorte piégée par sa réalisation dans ce tout à la fois rationnel et irrationnel dont elle ne peut plus se sortir.
Il faut peut-être aussi souligner que justement ce qui était au cœur du programme de la théorie critique qui a été développée pas seulement par Marcuse mais quand même dont on peut considérer qu'il est un des cofondateurs, c'est aussi la lecture de Hegel, et c'est aussi pour ça que la négation avait une force active.
Alors effectivement, vous faites bien de le rappeler, le pouvoir du négatif, c'était une allusion à l'ouvrage Raison et Révolution que Marcuse publie en 1941. Et cet ouvrage, Marcuse a dit quelque part qu'il l'avait écrit avec l'espoir d'apporter une contribution non pas à la renaissance des études hegéliennes, mais à la renaissance d'une faculté mentale en voie de disparition, le pouvoir de la pensée négative. Or, lorsqu'on parle d'unidimensionnel, on parle très précisément de la confusion du réel et du rationnel. Ce pouvoir du négatif, du même coup, a complètement disparu. La rationalité elle-même a engendré cette forme de rationalisation, de modernisation, qui conduit à la société unidimensionnelle, à une société dans laquelle non seulement le rationnel et le réel ne se distinguent plus, mais où en plus la rationalité bascule dans l'irrationalité et, tout en croyant démythologiser le monde, crée de nouveaux mythes.
Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Mais la force de frappe de l'homme unidimensionnel, oui. Vous la mettez où?
Ce qui s'est passé après, tout simplement. C'est pas rien. C'est tout simplement les États-Unis, c'est tout simplement tous ces jeunes qui se réclamaient de Marcuse à l'époque. Ensuite, vers 60, j'en suis témoin, j'ai quand même vécu cette époque, et j'ai vu comment Marcuse exaspérait les gens. Pour des quantités de raisons, d'abord il y a ce côté charmant, il est à 80 ans ou 78, il avait comme maîtresse ou comme amie donc Angela Davis, qui était une merveilleuse afro-américaine communiste, donc tout ça, il exaspérait le monde, et tant mieux. Il était absolument à la fois envié et détesté par ses collègues, parce qu'il considérait vraiment comme arrogant, comme etc. Parce qu'il avait une culture donc hegeliano et dégérienne, et tout ça était insupportable à un certain nombre de gens. Et qu'il avait trahi, évidemment, c'était un traître par rapport à je sais pas trop quelle école de pensée et tout. Et puis il était professeur à Princeton, hein. tout ça était tout à San Diego. En tout cas, c'est vraiment le type parfait de l'individu. Qui est insupportable à un certain nombre de gens, et qui plus est, son influence politique est loin d'être négligeable. Je vous rappelle très bien les articles absolument venimeux et haineux de, je ne sais pas du tout anticommunisme, mais à l'époque des communistes contre Marcuse, que Angela Davis avait reçu par le marxiste par le, comment dirais-je, le commentaire sulfuré de Marcuse. Il faut voir les textes de l'époque, sont très intéressants, parce qu'il y a une espèce vraiment de le personnage était vraiment, et il est toujours haï actuellement. J'ai parlé, je citais un penseur contemporain qui était gauchiste à l'époque, qui est au Figaro. Et bon, il y a une haine de Marcuse. Ça, c'est intéressant. D'autant plus qu'il est, bon, il est mort, etc. Donc il est inoffensif.
Oui, mais là,
quand on relit l'homme dimensionnel, c'est 100 000 fois supérieur aux choses plus récentes, etc. C'est une force incroyable. Et plus est, on est très admiratif devant sa connaissance de la philosophie française, de Blanchot, de Simondon, de gens qui à l'époque, qui sont toujours pas très connus, enfin Blanchot aussi, mais Simondon est assez peu connu en France, et Marcuse était manifestement, avait une connaissance très très contemporaine des choses. Bon, il suscitait, il vaut mieux faire envie de pitié, manifestement il suscitait de la jalousie.
We are the man from the moon. You are the people up in the sky. It is so good to be here. It's so good to be here. But now it's...
Je le trouvais très beau, avec sa chevelure blanche. Grand, mince, sans être trop grand, il avait cette douceur qu'ont beaucoup de juifs, même totalement assimilés comme il l'était. Plein d'humour, beaucoup de charme, très attentif, toujours à l'écoute, pas du tout prétentieux, pas du tout grand philosophe, très humain. Et on s'est baladé dans les rues de Paris, notamment on a pris un moment quelconque le boulevard Henri IV, je me vois encore à côté de cet homme, pour moi c'était vraiment le juif échappé. D'un passé révolu et presque comme une espèce d'apparition. Son côté humain m'a beaucoup, beaucoup frappé. Et puis, j'ai commencé à lui parler de Sartre. Et il m'a dit, comme Sartre, tiens, c'est curieux, voilà, un grand esprit de notre époque, de ma génération, que je n'ai pas rencontré, pourtant je l'ai beaucoup lu. Comment est-ce qu'il est, etc. Alors, je lui ai parlé de Sartre. Et je lui ai dit, vous savez, moi j'ai parlé à Sartre de vous, et Sartre m'avait dit la même chose que vous, il voudrait beaucoup vous rencontrer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on y va. On a fixé un rendez-vous. Et voilà les deux hommes, aussi célèbres l'un que l'autre, aussi impliqués encore dans
les événements
politiques, dans les événements, et entourés de jeunes, surtout tous les deux. Marcuse, donc, cette espèce de seigneur extraordinaire à 70 ans, avec un corps extrêmement sensuel et souple, et vis-à-vis du petit Sartre, très timide, toujours extrêmement gentil, très terre-à-terre, très naturel, et pas du tout grand philosophe non plus.
C'est deux figures très contrastées.
Ah oui, très contrastées, mais... Et en plus, il ne parlait pas la langue ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire que Marcuse parlait évidemment couramment l'anglais, mais Sartre très peu. Il avait oublié le peu d'allemand qu'il avait parlé. Il disait ça d'ailleurs comme excuse, en disant, vous savez, Marcuse, il s'appelait Marcuse et Sartre, pas monsieur un tel. Vous savez que j'ai étudié en Allemagne, j'ai lu les textes en allemand, mais j'ai tout oublié. Marcuse rigolait en disant que, bon, les premières années, il avait fait pareil, mais qu'il avait quand même, qu'il était allemand d'origine. Et puis, ils ont papoté.
Papoté, oui.
Papoté, et on sentait très distinctement que et l'un et l'autre n'étaient pas prêts à entrer dans une discussion idéologique. Ou philosophique, qu'il aurait fallu qu'ils restent seuls l'un avec l'autre pendant plusieurs soirées de suite pour pouvoir aborder les questions philosophiques de fond. Là, dans le contexte, ils ne pouvaient que rester un peu étrangers l'un à l'autre, s'observer, s'admirer. Je crois que Marcuse avait certainement plus d'admiration pour Sartre que Sartre pour Marcuse.
Mais est-ce qu'ils connaissaient bien ces textes ?
Je me le demande. Et puis ils étaient très différents, même s'ils étaient marxistes tous les deux, tout aussi humains, mais Sartre plus distant, moins chaleureux. Et Marcuse était finalement très intimidé. C'était ça qui était étonnant, que cet homme, somme toute au sommet de sa gloire, était quand même... petit jeune homme devant Sartre.
I pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home, who uses all his power to do evil, and in the end is always left so.
Depuis le commencement de l'histoire jusqu'à ce jour, la liberté des uns s'est toujours fondée sur la servitude des autres. Par conséquent, le concept de liberté intérieure était le seul concept de liberté qui correspondait à la réalité de société où l'existence était contrôlée par une minorité privilégiée. Dans ces sociétés, la liberté intérieure était vraiment la seule liberté inaliénable dont on disposait encore en prison et jusque sur le bûcher. La liberté de penser est déjà d'un autre ordre et beaucoup moins réelle. Elle n'est liberté que si elle peut être traduite en expression, et celle-ci a été tout au long de l'histoire sujette à des restrictions politiques, censure directe ou, à défaut de cela, privation pour la plus grande partie de la population, des moyens intellectuels et matériels qui l'auraient rendu capable de développer et d'exprimer une pensée libre. Et aujourd'hui, dans les pays industriels les plus avancés, les contrôles technologiques et politiques pervertissent même les libertés les plus fortement institutionnalisées, comme le suffrage universel. Pervertissent dans la mesure où ces contrôles créent et perpétuent une majorité populaire conservatrice qui est presque immunisée contre tout changement du système social. Mais à travers toutes ces notions répressives de la liberté, l'histoire de l'Occident a gardé la conscience d'une idée plus heureuse de la liberté, à savoir la puissance de déterminer sa propre vie. Et si la liberté est la faculté de décider de sa propre vie sans priver les autres de cette faculté, alors la liberté n'a jamais été une réalité historique jusqu'à ce jour même. Cela veut-il dire que la nature de l'homme, soi-disant la nature de l'homme, empêche la liberté de se réaliser? La réponse affirmative à cette question est un dogme pur et simple. Toutefois, il y a une réponse plus rationnelle qui s'appuie sur les données historiques elles-mêmes. Selon la théorie marxienne, c'est l'histoire de la civilisation comme histoire de la lutte des classes qui a empêché la réalisation d'une liberté plus vraie et plus généralisée. Cependant, les forces de production développées à l'intérieur des sociétés de classe ont atteint au stade où elles tendent à faire exploser l'organisation de classe elle-même. Et à ce stade, la liberté devient une possibilité objective. À ce stade également, le sujet historique apparaît capable de construire une société dans laquelle les impératifs de conservation et de croissance peuvent devenir les impératifs de la liberté. Réconciliation de la nécessité et de la liberté. Encore une fois, le fait implique la norme. S'il est un cas où la formule « si les faits contredisent la théorie, tant pis pour les faits », on pourrait imaginer Marx considérant le monde aujourd'hui et disant « je vous l'ai bien dit, non dans mes prédictions, mais dans mon analyse de votre société. »
Cet homme unidimensionnel, c'est un peu ce que vous vous qualifiez en d'autres termes comme homme moyen, c'est-à-dire l'homme qui est sorti de toutes les formes d'opposition, de contradiction, et qui est pris dans une espèce de volonté, de similitude, d'uniformisation sociale.
C'est-à-dire que de toute façon, il est non seulement il n'est pas sorti, mais il est totalement dedans. Il s'agit non pas de sortir, mais au contraire de s'enfermer le plus possible. Il s'agit de, non seulement il s'agit de s'enfermer soi, mais de deviner la manière dont les autres vont s'enfermer. Et si possible, de se coller à cette manière de s'enfermer. C'est ça. Non, mais, je veux dire, on est au comble de l'absurdité. Enfin, de l'absurdité qui va tourner ou l'absurdité criminelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut se singulariser en imitant, en singeant la panique uniformisante des autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré d'absurdité, et ce système concerne à la fois donc l'ordre politique,
l'ordre de la communication et l'ordre économique. Donc il y a une mentalité marché. C'est ça qui est très grave. C'est qu'il y a une mentalité marché actuellement. Il y a même des gens, même des philosophes contemporains tout à fait estimables, et des gens, je n'arriverai pas à vendre cette idée. C'est-à-dire qu'on arrive même... C'est-à-dire que c'est, donc la prédiction, enfin, tout au moins, les craintes de Marcuse étaient parfaitement légitimes. Où effectivement, la langue naturelle soit devienne à ce point rigide, totalement autocensurée, au point où seule la langue de la moyenne et du marché est tolérée. C'est grave. Et il faut bien s'entendre, c'est pas une critique, je ne fais pas du tout une critique humaniste des marchés, là. C'est simplement à un niveau presque de détermination mathématique et métaphysique. Enfin, philosophique, exactement.
Mais alors, ce que Marcuse avait pointé, c'est-à-dire que lui, finalement, il se tenait encore dans une situation d'espoir. Il disait soit la société industrielle avancée est capable d'empêcher une transformation qualitative de la société dans un avenir immédiat, ou bien alors il existe des forces capables de passer outre et de faire éclater cette société. Dans vos analyses actuelles, les forces permettant d'éclater la société, même si Marcuse lui-même avait à la fin de sa vie du mal à les entrevoir, on les entrevoit encore moins.
Non mais ça, c'est l'argument, si j'ose dire, mais là vous défendez le diable, c'est effectivement, alors quelle est votre solution, où être sont vos forces politiques?
Et non, je pensais que...
C'est tombé totalement dans le piège, parce que c'est pas parce qu'actuellement on n'arrive pas, on est en pleine confusion, on n'arrive pas à discerner clairement de telles forces... Le problème n'est pas résolu pour nous. L'histoire n'a pas de raison d'être là pour nous faire plaisir.
Oui, mais ce qui est certain, Marcuse le pose en termes de force, donc effectivement...
Ah bah oui, mais ça, ces forces-là, elles doivent se construire, c'est à nous à les construire. Justement, la semaine dernière, j'étais agressé par des jeunes gens. Ça m'a dit, mais alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous critiquez tout et vous... Mais ça, c'est totalement absurde. Parce que ça veut dire que si on ne définit pas une zone de l'intolérable... Cette critique de la clarté, si on ne la fait pas, on va totalement tomber dans ce que j'appelle le discours scientologique. Un discours totalement fermé sur lui-même et instrumental. Donc de toute façon, la question de savoir s'il existe des forces qui peuvent changer ou pas, pour moi, elle est à la fois essentielle et en même temps subsidiaire. J'estime qu'on doit de toute façon parler, c'est quand même le devoir. C'est pas parce que sur la République de Weimar, il y avait des forces considérables qui risquaient de prendre le pouvoir. Déjà, pour un penseur, le problème ne se pose pas. C'est pas parce que Socrate est certain que les forces qui vont l'assaillir sont plus fortes que lui qu'il doit se taire. Donc, vous voyez, déjà, la question est mal posée pour, effectivement, le penseur. Maintenant, pour ce qui est de l'homme politique, ça, c'est un autre problème. Mais de toute façon, c'est pas si décourageant que ça, puisque d'abord, qui aurait cru, il y a un an, que l'ami allait susciter de telles fureurs? Bon, déjà, il y a ça. Ça, c'était la divine surprise. Donc on ne sait jamais exactement où on en est. C'est ça aussi le fantasme d'un certain type de représentation qui se voudrait progressiste et moderniste, même des gens progressistes au sens justement où elles prétendent dire en fait, oui, non, vous peignez tout en noir, vous découragez, etc., il ne faut pas désespérer. Enfin, bon, c'est la nouvelle version, il ne faut pas désespérer Billancourt, parce qu'avant, il ne fallait pas critiquer l'URSS sous prétexte que c'était le parti socialiste. Maintenant, il ne faut pas critiquer ce qui est sous prétexte que ça décourage les gens. Et c'est assez drôle de voir à quel point il y a des invariants dans la stupidité. Parce qu'il faut bien appeler ça de la stupidité. C'est évident que le fait de dire que on n'a pas le droit de critiquer sous prétexte qu'on n'a pas de solution, pour moi, c'est ça le programme. Je me rappelle très bien qu'un certain ex-premier ministre, les gens vont tout de suite voir de qui il s'agit, avait annoncé qu'il allait faire un Big Bang avec son programme. Hein, je ne vais pas le nommer parce que le malheureux n'est pas... C'est un malheureux, c'est pathétique cette histoire de Big Bang. Son Big Bang, mais qui s'en souvient du Big Bang de ce malheureux pitre? Personne. Alors par contre, probablement historiquement, la réaction contre l'ami ou les réactions qu'il peut y avoir contre Maastricht certainement resteront dans l'histoire.
La psychanalyse tire sa force de son vieillissement, de son insistance sur les besoins et les possibilités des individus qui ont été dépassés par le développement social et politique. Ce qui est vieilli n'est pas faux pour autant. Si ce sont les progrès de la civilisation industrielle et sa politique qui ont rendu caduque la conception freudienne de l'individu et de sa relation envers la société, s'ils ont sapé les forces dont l'individu avait besoin pour devenir et rester une personne autonome, alors les concepts freudiens ne doivent pas servir à exorciser uniquement le passé, mais aussi un avenir qu'il s'agit de conquérir. Avec sa dénonciation sans aucune concession de ce que l'homme subit du fait d'une société répressive, avec sa prédiction que les progrès de la civilisation entraîneraient un accroissement de la culpabilité, que la mort et la destruction menaceraient de plus en plus réellement les instincts de vie, Freud a lancé une accusation qui a été corroborée depuis lors, par les chambres à gaz et les camps de concentration, par les méthodes de torture pratiquées dans les guerres coloniales et les opérations de police, par l'habileté et la légèreté avec lesquelles les hommes se préparent à une vie souterraine. Ce n'est pas de la faute de la psychanalyse si elle ne peut lutter contre cette évolution. Elle ne peut pas non plus augmenter ses forces en assimilant des philosophies telles que le bouddhisme zen ou l'existentialisme. La vérité de la psychanalyse est qu'elle reste fidèle à ses hypothèses les plus audacieuses.
Marcuse publie Eros et civilisation en 1955. Alors, c'est une interprétation tout à fait originale qu'il fait du texte de Freud, Malaise dans la civilisation, qu'il avait écrit en 1930. Et là, il propose une autre définition de la psychanalyse, et il en fait une espèce d'arme de critique radicale et révolutionnaire. Mais peut-être avant d'aborder cet aspect-là, il est important de comprendre dans quel contexte polémique ce texte a été écrit, Elisabeth Roudinesco.
C'est à l'occasion des événements de 68 à Allemagne et France que Marcuse a été lu. Et le problème, c'est qu'il me semble qu'en effet, il y avait une lecture tout à fait nouvelle, qui était de redonner sa dimension critique et subversive à la théorie freudienne. Donc il critiquait à la fois Reich,
mais
biologie.
S'il reconnaît sa dette.
Absolument. Il faut reconnaître la dette à Reich. Mais quand même, il n'est pas du tout dans ce biologisme-là, puisque sa tentative à lui, je dirais, c'est plutôt de naturaliser la théorie des pulsions en montrant qu'elle est d'emblée politique. C'est plutôt cette thèse-là. Surtout, ce que j'aime énormément dans Marcuse, mais que je n'ai pas du tout compris à l'époque, ça c'est beaucoup plus tard que je l'ai compris, c'est évidemment son rapport à l'école de Francfort. Il faut absolument redécouvrir l'importance de l'école de Francfort. Ce sont ceux qui ont compris qu'il fallait revaloriser politiquement Freud, lui redonner une dimension critique après le nazisme. Alors c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été perçu bien en France à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'en France, on avait Lacan, qui occupait au fond tout ce terrain-là, c'est-à-dire la revalorisation de la théorie freudienne. Les années 55-70, c'est évidemment en France Lacan. Donc, même pour les gens comme moi, de ma génération, en 68, je ne peux pas dire que Marcuse m'ait beaucoup intéressée, parce qu'on avait autre chose. Cela dit, c'est à ce moment-là qu'on l'a découvert, en tout cas, et on l'a lu, et c'est peut-être aussi ça l'erreur, sans l'école de Francfort et avec Reich, comme si ça faisait un tout, dans le cadre des révoltes étudiantes. Et ça n'est qu'après qu'on pouvait s'apercevoir à quel point c'était différent et à quel point ça appartenait, disons, à une lecture extrêmement freudienne, finalement, de Freud. Alors, il s'inscrit donc contre ceux qui sont hostiles à la pulsion de mort, y compris Reich, et y compris ce qu'il appelle les révisionnistes, c'est-à-dire ceux qui ont voulu adapter la théorie freudienne à la société et notamment à toute l'école américaine, à la fois culturaliste, à tous ceux qui ont cet engagement politique comme Eric Fromm, etc. Ils trouvent qu'ils ne sont pas assez radicaux. Mais pour autant, il n'est pas non plus d'accord avec la thèse centrale de Freud sur la pulsion de mort, puisqu'il pense qu'on peut créer une civilisation qui ne soit pas faite entièrement de renoncement. Il est beaucoup moins pessimiste que Freud. Il croit à l'espoir d'une possible civilisation pacifiée, en quelque sorte.
C'est le premier texte qui prend à bras-le-corps la question de l'agressivité et de la mort en psychanalyse. À l'époque, il n'y avait guère que Mélanie Klein et les Kleiniens qui prenaient la question au sérieux. Si l'on fait abstraction du texte de Lacan en 1948, l'agressivité en psychanalyse, Marcuse est vraisemblablement un des seuls à avoir pris les choses à la racine, si je puis dire, c'est-à-dire à avoir pris au sérieux le malaise dans la civilisation de Freud.
Mais à la fois, ce qui est quand même assez troublant, c'est que vraiment, il pose comme une des conditions radicales de la révolution, enfin, le changement du conscient et de l'inconscient.
Oui, mais avec un gros problème, Marcuse considère que le biologisme freudien est en profondeur une philosophie sociale. Et du même coup, Marcuse va se trouver aux prises avec le biologisme. Du dernier Freud, cette ontologie concurrence, l'imaginaire social et ce qu'on appellerait en termes freudiens la dimension du fantasme, au fond, et que dans Eros et civilisation, les deux paradigmes que l'on retrouve sans cesse dans la pensée de Marcuse, c'est-à-dire d'un côté une philosophie de la vie, et de l'autre une philosophie de l'imaginaire et une dialectique de l'imagination, ces deux paradigmes ne parviennent pas à fusionner. Bon, alors la réflexion marcusienne mise sur l'idée que pour vaincre la mort, il ne faut surtout pas affaiblir Eros, c'est-à-dire que Marcuse joue sur la notion freudienne d'alliage. On ne trouve jamais la pulsion de mort à l'état pur, mais toujours en association aux pulsions de vie. Et Marcuse, poussant jusqu'au bout cette conception, estime qu'on ne peut venir à bout de la pulsion de mort qu'en renforçant les pulsions sexuelles. Donc plus on est répressif à l'égard de la sexualité, plus on donne à la mort la possibilité de s'affirmer. L'énergie de la pulsion de mort ne paralyse pas nécessairement les efforts pour atteindre un monde meilleur, mais ces efforts sont paralysés par les contraintes de la que la civilisation impose aux pulsions de vie et par l'incapacité qui en découle pour les pulsions de vie d'enchaîner efficacement l'agressivité. C'est une idée originale, tout à fait en accord avec ce que Marcuse a développé dans sa pensée, à savoir que les conditions d'une société émancipée existent, et que d'une certaine façon, pour exagérer un petit peu, il suffit de se baisser pour les ramasser.
Oui, d'ailleurs, il reproche à Freud d'être beaucoup plus pessimiste que lui sur cette question, et d'avoir un peu nié justement la possibilité d'une civilisation qui puisse être non répressive.
Oui, bien entendu. Et je crois qu'à cet égard, une petite dizaine d'années plus tard, l'homme unidimensionnel est à nouveau extrêmement pessimiste.
Mais c'est vrai qu'initialement, il élargit les thèses de Freud. Notamment il introduit le concept de surrépression, donc qui veut distinguer de l'idée de répression fondamentale chez Freud, et puis en plus, le concept de rendement, forme spécifique, disons, du principe de réalité de nos sociétés modernes.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'idée que le développement des forces productives permet parfaitement l'émancipation, et que le blocage ne tient pas à une répression nécessaire, mais à une surrépression inutile. D'une certaine façon, il n'y a pas moins répressif que la société unidimensionnelle. Il y a dans le capitalisme avancé des possibilités fantastiques, mais dans quel sens? Par une association indécente de l'esthétique et de la réalité, dit encore Marcuse. C'est-à-dire qu'il y a une pseudo-libération, que représente la permissivité, y compris le développement de la pornographie.
Oui, la liberté des mœurs, effectivement.
Oui, la liberté des mœurs, dont Marcuse parle au chapitre 3 de l'homme unidimensionnel.
Oui, il dit que l'érotisme est officialisé sous forme d'excitation commerciale inassouvie.
Et il va jusqu'à dire que donner à l'imagination tous ses moyens d'expression serait une régression. Dès lors que la rationalité technologique a atteint l'imagination, la fiction que pourrait lui opposer l'imaginaire est, elle aussi, récupérée sous forme de désublimation répressive, qui n'est jamais qu'une des façons d'intégrer la conscience malheureuse au système, ou si vous préférez une formule un peu plus philosophique, l'utopie d'une société émancipée relève de l'irreprésentable.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Je pense qu'on doit le relire comme ayant donné une des voies d'accès à ce que le freudisme peut produire comme critique des sociétés libérales avancées d'aujourd'hui. Et en ce sens, c'est l'homme unidimensionnel que je préfère, parce que ça permet vraiment de critiquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, et qui va avec la disparition de la psychanalyse, c'est-à-dire la disparition de l'espace psychique. Je vais vous donner un exemple. La disparition de l'espace psychique aux États-Unis, elle a atteint des sommets, puisque aujourd'hui, on revendique plutôt la causalité organique pour toutes les maladies psychiques, causalité organique, c'est-à-dire en dehors du sujet. Ça n'est jamais, ça ne vient jamais du sujet lui-même, mais ça vient d'une causalité extérieure. Or,
mais qui n'est pas une causalité sociale d'organisation.
Alors, de moins en moins une causalité sociale et de plus en plus une causalité organique, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus inerte. Hein. Si vraiment, quand vous êtes hystérique, névrosé, vous avez des problèmes, ça vient des gènes et que ça peut soigner par les médicaments, en fait, c'est très grave, parce que vous avez une disparition radicale de l'action du sujet sur lui-même et surtout de sa fonction critique. Et c'est ce que j'appelle la disparition de l'espace psychique. Et ça, il l'a très bien montré, Marcuse. Marcuse, en fait, c'est quelqu'un qui réactualise l'inconscient freudien sous la catégorie des grandes philosophies de la conscience. Thèse avec laquelle je suis d'accord, qui reviendrait en France à, lier Sartre et Freud, Sartre et Lacan. C'est-à-dire, on manque aujourd'hui de conscience critique, en quelque sorte. On est allé très loin dans l'analyse de l'inconscient, mais si on fait disparaître cette idée force de Freud, à savoir que un sujet ne peut explorer son inconscient que s'il est conscient qu'il a un inconscient, dans quoi on nage aujourd'hui? On nage dans quelque chose qui serait le constat que tout le monde dans nos sociétés occidentales, on sait qu'on a un inconscient, mais on le sait tellement bien qu'on s'en occupe plus et qu'on s'en fiche. Donc on délègue la responsabilité à l'extériorité, c'est-à-dire soit à l'organique, soit à la société elle-même, d'où la victimologie. Les gens se vivent comme des victimes d'un système. Disons, la responsabilité ne peut jamais être celle du sujet. Donc c'est un des grands paradoxes d'aujourd'hui, d'où la défaite de la psychanalyse qui supposait quand même la conscience critique. C'est très joli de mettre tout sur le dos de l'inconscient, c'est même nécessaire, parce que si vous niez l'existence de votre inconscient, ça ne va pas, parce qu'il y a bien des forces qui vous déterminent à votre insu. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait de la conscience. Si vous n'avez pas de conscience, ni de conscient au sens freudien, je ne vois pas comment on peut avoir conscience qu'on a un inconscient. En gros, c'est ce paradoxe-là. Et je crois que Marcuse l'a compris.
Ça s'articule aussi chez Marcuse à la, comment dire, la mise en relief de la question du désir dans son articulation à la liberté.
Absolument. Et ça va ensemble. Vous n'êtes libre que quand vous êtes désirant, et vous n'êtes libre que quand vous savez qu'il y a une limite à votre liberté. Et ça, c'est capital. L'idée de qu'on trouve des substituts loisirs, psychothérapie, pilule du bonheur, etc. Enfin, il disait pas, il parlait pas encore comme ça.
Ça n'existait pas encore.
Ça n'existait pas encore, mais au fond, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le lire. C'est, moi, je le lirais. C'est la disparition du sujet dans l'individu et dans l'hédonisme. C'est un critique de l'hédonisme. Ce serait terrifiant aujourd'hui, Marcuse, s'il vivait encore. Il aurait 100 ans. Oui, il aurait 100 ans. et 30 ans de mai 68, 100 ans de Marcuse, je crois qu'il serait terrifié de voir qu'il avait parfaitement raison. Mais cela dit, Freud aussi, je pense, parce que c'était des hommes du vieux monde. Des hommes qui avaient une sorte, évidemment, de vision tous pessimistes de l'homme, mais pas si pessimistes que ça, au fond. On vit dans une période où le pessimisme est absolu, mais masqué derrière des théories du bonheur. Rien n'est pire que d'assigner comme destin au sujet de prendre des médicaments, de s'adapter, d'aller bien, d'obéir, de devenir un objet de marchandise et de gagner de l'argent. C'est la pire des aliénations. Il faut restituer la conscience critique. Parce que sans la conscience critique, on fabrique des objets au lieu des sujets. Et évidemment, politiquement, c'est valable. Si on tend vers des sociétés de plus en plus soumises et totalitaires, vous savez, il y a une forme de, je dirais pas de totalitarisme, mais d'abrutissement des sociétés industrielles ou libérales avancées. C'est pas du tout la même coercition que les régimes communistes ou que les fascismes, mais il y a une forme quand même de coercition très grave.
Douce. Oui, presque, douce. Parce qu'invisible ou
invisible, souterraine, liée à la disparition de la culture, de la possibilité pour chacun, si vous voulez, le mutisme de toute forme de révolte, qui conduit tout de même à des fascismes doux.
Puis-je rappeler, c'est en ligne là, hein, puis-je rappeler un mot d'Einstein qui disait « Quand je vois les hommes marcher au pas, je me demande pourquoi la nature leur a donné un cerveau. Une moelle épinière, il suffit. » Je crois que c'est un mot pour les CRS.
Le 11 mai, le professeur Marcuse.
Je crois que particulièrement en France, il y a une autre possibilité.
Laquelle?
Il a, par exemple, la possibilité de construire, de développer une société entièrement différente du modèle américain, une société vraiment humaine, ou si vous voulez, une société vraiment socialiste.
Mais dans les armes théoriques, spéculatives, quelles sont celles que vous retiendriez?
Ah ben, d'abord, cette notion d'unidimensionnalité, effectivement, où la positivité doit être claire, se donner clairement, sans négatif, et on doit être dans un grand cybervillage, où tout le monde est sympa, où, comme dirait Bill Gates, il faut découper des psychologies comme on découpe des jeans. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bill Gates. Je suis un lecteur attentif des œuvres de Bill Gates. C'est hallucinant. Effectivement, ce qu'on peut reprocher à Marcuse, c'est simplement qu'il était beaucoup trop optimiste. Au sens où il n'avait pas vu à quel point, d'abord, effectivement, là, il y aurait eu une contre-attaque, c'est ce que j'appellerais cyber-libérale, de la fin des années 70. Et surtout la manière dont même des gens de gauche, avec une espèce de niaiserie humaniste, reprennent ça à leur compte et interdisent toute critique un peu virulente. Ce qui est beaucoup plus fort, je dois avouer, ce qui fait la force de ce que j'appelle la crétinisation socio-communicationnelle à l'anglo-saxonne, qui a été inventée, disons, dans les années 20. Et qui est très puissante, c'est qu'on a l'impression, ça use beaucoup du « tu », surtout du « nous ». Comme s'il y avait une espèce de connivence. Nous savons bien que, etc., etc., que je ne sais quoi. C'est toujours au nom d'un nous qui regroupe précisément, évidemment, les hommes moyens qui sont censés parler, parce que brusquement, les hommes moyens parlent. Et d'ailleurs, dans mon livre sur les personnages de Turbo et Cassine, ou Cyber-Gédéon, se pense vraiment comme étant cette espèce d'élite qui est à la fois qui tient, d'ailleurs, c'est très curieux, ce paradoxe de cette nouvelle classe moyenne qui déjà a été dénoncé par Marcuse d'une certaine manière. L'articulation qui existe actuellement entre le politique, l'économique et le cybernétique était évidemment beaucoup moins nette à l'époque de Marcuse. Même si elle avait annoncé théoriquement, et probablement connue par Marcuse, par Wiener, qui avait annoncé cette chose et qui voulait précisément pacifier toutes les contradictions avec son cybervillage. Parce que Wiener était quelqu'un tout à fait honnête, respectable, un grand mathématicien et tout à fait progressiste. Il avait pressenti qu'évidemment, mais ça c'est un peu la naïveté de la position du grand savant qui ne voit jamais que la chose n'est jamais pure, il y a toujours de la politique et du pouvoir, qu'effectivement c'était la façon la plus exquise, la plus délectable de domination qui est en train de s'installer. On sait maintenant, Marcus ne pouvait pas le savoir en 61 ou 62, mais nous savons que les problèmes sont toujours infiniment plus difficiles. C'est à peu près la seule chose qu'on doit accorder, disons, au point de vue réactionnaire, c'est que c'est toujours beaucoup plus difficile qu'on le croit. Bon, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Justement, c'est cette effectivité que recherche Marcuse. Il n'y a pas d'utopie, une espèce qui serait placée. Justement, ça, c'est un reproche qui m'était fait. Mais alors, vous n'avez pas de notion d'homme idéal. Alors, c'est quand même un comble, parce que actuellement, on sait bien que ces notions d'homme idéal peuvent mener à des choses qui ne sont pas très excitante, donc c'est toute la difficulté, c'est d'avoir une espèce d'écart, de refus, de négatif constructeur, en héritant toutes les vertus d'un certain type de critique libérale, parce que malgré tout, il faut accorder au libéralisme, dans ce qu'il a de plus conséquent, des choses dont il faut... en quelque sorte, c'est comme un boxeur avec un autre boxeur. Il a donné le libéralisme pendant 15 ans, a donné des coups. Et des coups, et par certains côtés, il a vaincu. C'est jamais un hasard quand on réussit à vaincre. Ça veut dire d'abord qu'on est le plus fort, et ou bien que l'adversaire était en voie de décomposition. Je pense qu'à un moment donné, toute force aussi subversive, aussi affûtée soit-elle, à un moment donné, s'essouffle. Il faut voir les choses sur le très long terme. C'est cette idée, je préfère. Là, vraiment, c'était exactement un domaine où c'est comme quand vous êtes avec quelqu'un qui a perdu un être cher. Il y a une espèce de chose délicate là. On ne sait absolument pas comment. On ne va pas terminer sur des conseils. ça serait totalement absurde. Ce qui est certain, c'est que le libéralisme a marqué des points et que maintenant. Il faut que s'il y en a marqué d'autres dans l'autre sens et avec une grande détermination. Sinon, il y a un danger réel de prise de pouvoir par des sectes. Mais... c'est quand même ce qui menace le 21e siècle, c'est la secte. La défaite était signée dès le début des années 70. Enfin, la défaite, j'entends théorique, ça ne s'est pas vu immédiatement. Mais on ne peut pas demander... c'est toujours pareil, on demande de trop aux gens qui... On peut infléchir chacun dans sa génération, dans son temps. Justement, Hegel disait, on peut... Le problème, c'est de trouver dans son temps, à mon avis, l'intervention la plus incisive. Mais d'abord, on ne peut pas tout faire. Et puis surtout, déjà, le fait d'infléchir, comme l'a fait Marcuse, est déjà un travail extraordinaire.
Il a rempli le contrat, si on peut dire.
Ouais, non, mais c'est pas un contrat. Il n'y a aucun contrat entre le penseur et l'histoire. Ça,
Et dire que tu as écrit que j'étais un pyromane à la retraite et que vous pensez en France et en Europe que je suis le has-been de 68. Comme si la révolution et le combat pour la justice s'arrêtaient jamais. Mais 68, c'était un symptôme, un tremblement brutal, comme la Commune de Paris. Bien sûr, je suis encore marxiste, mais comme on peut l'être aujourd'hui au contact de notre société. Je pense que les idées de 68 préparent à très long terme un changement de société. En attendant, il ne faut pas se résigner. Il faut combattre le découragement et tout ce qui l'entraîne, la drogue, la clochardisation, le fanatisme, le refus haineux de la beauté et de l'intelligence. Il n'est pas vrai que la beauté soit réactionnaire et que l'esprit et l'humour soient bourgeois, comme l'a trop longtemps enseigné la brigade marxiste des Russes et des Chinois. Il n'est pas vrai, et les jeunes Américains sont déjà en avance sur ce point, qu'il soit nécessaire d'être mal habillé, d'être sale, ou de rejeter l'amour et la vision poétique, lyrique même, du monde.
I'm happy to present my friend, Herbert Marcuse.
Don't stick it in my face.
Okay.
If you can avoid it.
I don't know if I can move.
Huh? Well, that was a beautiful introduction. Can you hear me? Can you hear me now? No?
On doit relire Marcuse pour conclure. S'il fallait conclure, on doit relire Marcuse absolument. Et surtout ne pas se laisser, disons, d'avoir cette espèce de sourire un peu ricanant, justement, turbo-bécassine, j'avais dit, de devoir tout ça, oui, ça c'est des illusions de génération. Il y a des, en fait, il y a une force dans cette pensée, un caractère aigu et affûté qui est totalement contemporain et tout à fait admirable.
Bien sûr, je voudrais revoir Venise, Padoue, enquêter sur Negri et les Brigades Rouges. Toute cette violence, toute cette cruauté, il faut l'analyser, l'expliquer, la désamorcer, la transcender. Mais j'ai quand même un peu peur de mourir par cette chaleur à Venise, comme le personnage de Thomas Mann. Je préfère rester dans mon Allemagne si je dois m'en aller. Tu sais, toute ma vie, je n'ai cru que dans Eros et Thanatos, l'instinct de l'amour, l'instinct de la mort. Je crois que maintenant, c'est l'heure de mon rendez-vous final avec la mort. Mais j'y suis résigné.
Can you hear me now? But please tell me if you cannot hear me.
Une vie, une œuvre. Herbert Marcuse, une philosophie de l'espoir pour les sans espoir. Une émission de Catherine Paoletti.
Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise.
Avec Katharina von Bülow, Elisabeth Roudinesco, co-auteur du dictionnaire de la psychanalyse aux éditions Fayard, Gilles Châtelet, auteur des Enjeux du mobile aux éditions du Seuil, et de Vivre et penser comme des porcs, de l'incitation à l'envie et à l'ennui dans les démocraties marchées aux éditions Exil. Gérard Rollet, auteur de Herbert Marcuse, philosophie de l'émancipation aux éditions des Puffs, et la voix d'Herbert Marcuse. Texte lu par Claude Métra et Jean Pennec. Archivina, Emmanuel Pige. Recherche sonore, Jacqueline Degrange. Enregistrement et mixage, Jean-Claude Gauthier, Christophe Bompas. Réalisation, Isabelle Huel.
Ta bouche a piqué. J'ai pas compté, j'ai escompté. Mais une erreur de taille s'est glissée. J'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax. Issu de toi, issu de moi, on s'est hissé sur un piédestal, et du haut de nous deux on a vu.
C'était mai 68, une vie, une œuvre, Herbert Marcuse, une philosophie. Une émission de Catherine Paoletti, réalisation Isabelle Huel, première diffusion 1998 sur France Culture.